Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En France, plus de 6000 personnes vivent avec la mucoviscidose. Cette maladie génétique, potentiellement grave, touche les fonctions respiratoires et digestives et peut occasionner des symptômes invalidants, tels qu'une toux évoluant en insuffisance respiratoire, une grande vulnérabilité aux infections bactériennes, des problèmes de transit, une insuffisance pancréatique, voire même une atteinte du foie et de la vésicule biliaire. Dans les années 60, l'espérance de vie d'un enfant atteint de mucoviscidose ne dépassait pas en moyenne les 5 ans. Depuis les années 2000, la prise en charge des malades s'est largement améliorée, notamment grâce au dépistage néonatal systématique et à la création de 49 centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose. L'espérance de vie d'un enfant né aujourd'hui avec cette maladie est comprise entre 40 et 50 ans et devrait encore s'améliorer dans les années à venir. Si ces progrès sont évidemment une chance, ils font également émerger de nouvelles problématiques pour les malades, avec la possibilité de se projeter dans un avenir, une scolarité, une carrière professionnelle, une vie de famille. Se pose alors la question de l'accès à la participation sociale et de sa compatibilité avec la gestion des symptômes et des traitements. La sortie de l'adolescence et le passage à l'âge adulte sont à ce titre des moments particulièrement déstabilisants pour les jeunes atteints de mucoviscidose. Des moments où la perception de l'environnement et des obstacles à cette participation sociale peuvent interagir fortement avec la prise en charge de la maladie. Nos invités sont chercheurs en anthropologie au laboratoire Synthésie. Ils publient un ouvrage intitulé « L'ombre du handicap », faisant suite à une enquête de près de 18 mois auprès d'adolescents et de jeunes adultes atteints de mucoviscidose pour mieux comprendre les obstacles ou les facilitateurs à la participation sociale rencontrés à l'école et sur leur lieu de travail. On en parle avec Laura Silvestri, bonjour.
Bonjour.
Sylvain Ferrez, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux dans Allume la science. À mes côtés, comme chaque semaine, Aline Perriot, bonjour.
Bonjour.
En fin d'émission, Agnès Pesentier, responsable de la culture scientifique à l'UM, nous rejoindra pour nous présenter le prochain Bar des sciences qui se tiendra au Dôme le 29 février prochain sur le thème « Palavas sous les flots, science-fiction ou réalité ?» Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors, vous consacrez votre ouvrage au parcours scolaire et professionnel, donc des malades atteints de mucoviscidose. Pourquoi avoir travaillé sur cette maladie en particulier, Laura Silvestri ?
Parce que, comme vous venez de le présenter, la mucoviscidose a été longtemps considérée comme une maladie principalement pédiatrique. Et avec une prévision de décès précoce dans la plupart des cas. Et dans les 20 dernières années, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Donc là, nous rencontrons la première génération qui, de manière beaucoup plus fréquente, se projette dans des projets de vie un peu plus sur le long terme, donc des projets d'études, de mariage, de profession, etc.
Alors, en deux mots, pour qu'on se rende un petit peu mieux compte du quotidien donc de ces malades, les traitements aujourd'hui, ils se présentent sous quelle forme ?
Alors, il y a un changement très récent avec un nouveau médicament qui est en cours d'introduction, qui peut apporter pour une majorité de patients beaucoup d'améliorations et changer le cadre que nous décrivons dans notre ouvrage, mais disons dans la plupart des cas et jusqu'à maintenant. Il y a des médicaments à prendre pour la digestion, donc des enzymes pancréatiques. Et il peut y avoir souvent des cures antibiotiques, dans les cas les plus importants, des cures intraveineuses qui peuvent durer 2 semaines. Et traitements assez contraignants au niveau de la gestion du temps, qui sont la kinésithérapie respiratoire, qui peut arriver jusqu'à 2 fois par jour, et les aérosols.
Alors, dans ce livre, vous abordez la mucoviscidose sous le prisme de la participation sociale. Sylvain Ferrez, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de participation sociale ?
Oui, il s'agit en fait d'un cadre théorique qui vient du milieu du handicap et du monde du handicap, qui a été construit dans les années 70 et 80, qui consiste à considérer le handicap au sens vrai comme un désavantage social, c'est-à-dire lié à la rencontre entre les caractéristiques d'individus et les environnements dans lesquels ils interagissent. Et donc, quand on parle de participation sociale, on essaie de comprendre en quoi ces environnements sont plus ou moins obstacles ou facilitateurs de la participation des gens en fonction de leur capacité, de leurs caractéristiques personnelles, les caractéristiques personnelles étant évidemment plus larges que les capacités, mais les capacités étant un élément important. On voit bien ce à quoi ça peut renvoyer dans le monde du handicap physique. Parler de participation sociale, c'est considérer que les gens sont en situation de participer quand les espaces sont aménagés, sont accessibles. Sinon, ils sont, on dit, en situation de handicap. J'insiste parce qu'on dit souvent les personnes en situation de handicap. Le propre de ce modèle-là est de ne pas considérer la situation des individus d'un point de vue général, mais les incapacités des individus d'un point de vue général et les situations de handicap ou de participation, évidemment, suivant les environnements, un même individu pouvant être, selon la situation, en situation de handicap ou en situation de participation sociale.
Et alors, cette participation sociale, vous l'avez mesurée, vous, à l'école et au travail. Pourquoi vous avez choisi ces deux sphères-là, précisément ?
Je crois que les éléments ont été donnés en partie. En fait, ce sont des univers auxquels accédaient très peu ces personnes ayant la mucoviscidose de manière très exceptionnelle. Et évidemment, avec le temps et avec les progrès des traitements, la question de la participation sociale s'est déployée dans de nouveaux univers. Et évidemment, les univers premiers de projection dans lesquels ces individus sont rentrés de manière plus massive, et ça a été l'école et le monde du travail qui semblaient des univers desquels ils étaient exclus et dans lesquels ils ne pouvaient pas se projeter il y a ne cela que quelques décennies, et qui désormais deviennent des univers dans lesquels ces individus doivent être accueillis, dans lesquels ils souhaitent aller, dans lesquels ils se projettent, et donc posent à ces univers-là une question redoutable pour les inclure et pour créer les conditions de leur accueil et de leur participation pleine et entière dans des carrières professionnelles ou dans des carrières estudiantines ou d'élèves du secondaire.
Alors, pour appréhender justement l'impact de l'environnement social sur le parcours biographique de ces personnes, vous avez utilisé le modèle MDH-PPH2 pour modèle de développement humain, processus de production du handicap. Ce modèle, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, modèle de développement humain, vous voyez, c'est l'idée qu'il y a une diversité de développement humain quand on est petit, et qu'on n'atteint pas tous le même niveau de capacité dans les différents domaines, qu'on parle des capacités physiques, des capacités intellectuelles, des capacités sensorielles, que certains individus n'atteignent d'ailleurs jamais certains niveaux de capacité dans leur vie, ou les atteignent suivant des niveaux différents, et que donc la question de la participation sociale devient l'adaptation à cette diversité humaine. Et donc, processus de production du handicap, que le handicap ne doit pas être que du côté des capacités des individus, qui elles peuvent être variables, et donc est un problème de droit pour les institutions, pour essayer de créer des conditions de participation sociale, des dynamiques de participation sociale, et donc de bien maîtriser ces processus de production du handicap, vous voyez, qui sont à l'articulation entre les capacités des individus et les environnements, et donc le monde social.
Alors, vous avez centré votre travail sur une période particulière de la vie des patients, l'adolescence et l'âge jeune adulte, entre 15 et 25 ans. Laura Silvestri, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces âges-là en particulier ?
Parce que c'est l'âge où il y a des reconfigurations importantes de la vie personnelle et sociale, et où aussi les éventuels obstacles que l'environnement peut poser à la participation sociale des personnes vont ressortir de la manière la plus évidente.
On pourrait rajouter aussi que c'est une période où la maladie prend une expression sociale et plus importante au regard de deux aspects. D'abord, il y a des dégradations des états de santé au cours du temps qui peuvent survenir souvent dans cette période-là. Et deuxièmement, évidemment, la question de l'adolescence, c'est la question aussi de l'autonomie des individus et tout un tas d'aspects qui étaient gérés auparavant par la famille et par les parents dans le rapport à l'école reviennent désormais petit à petit et sont délégués à l'individu qui se trouve, j'allais dire, de plein droit en gestion de sa maladie, en connaissance et en conscience de celle-ci et en capacité de devoir gérer tout un tas de choses qui, j'allais dire, d'une certaine manière, auparavant, lui échappaient parce qu'elles étaient gérées par d'autres et il pouvait avoir l'illusion d'être dans la normalité ou qu'il y avait un problème dont il ne mesurait pas exactement lequel il était et qui était géré en partie par les familles.
Alors, on a compris avec vous, Laura Silvestri, que donc, ces personnes passent beaucoup de temps en contact des professionnels de santé. C'est la raison pour laquelle vous avez interrogé donc, 13 professionnels engagés auprès des patients atteints de mucoviscidose pour comprendre leur perception des obstacles rencontrés par les malades. Alors, certains peuvent parfois être réticents à voir les patients développer leur participation sociale en raison d'un risque de moindre observation des préconisations thérapeutiques. Est-ce que cette vision, elle évolue chez les professionnels justement avec cette évolution de la maladie?
C'est surtout, on a vu au contact de la clinique, c'est-à-dire qu'au contact des patients, effectivement, les professionnels peuvent se rendre compte que la participation sociale des personnes ne dépend pas que des caractéristiques de leur maladie, mais on le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils conceptualisent hein, avec un modèle théorique explicite, mais à travers le contact, oui, effectivement, ça, il y a une transformation à ce niveau-là.
Sylvain Ferrez, est-ce que vous avez observé aussi une évolution donc, des représentations de ces professionnels de santé au cours de leur carrière ?
Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a le type de carrière et comme l'a dit Laura, les cliniciens les plus proches, les kinésithérapeutes qui sont chargés notamment de ces fameux massages de kiné respiratoire qui donnent une proximité avec les patients et des temps d'échange qui génèrent une certaine intimité corporelle, échangent beaucoup avec eux et donc ont une vision un peu différente vous l'avez dit, du simple médecin qui est derrière son bureau et qui regarde des évolutions biologiques liées par exemple aux infections et à la teneur des crachats qui sont faits par les individus. Donc il y a une différence entre les médecins. Il y a aussi une différence importante dans l'évolution de carrière. Évidemment, plus les professionnels sont familiers avec la mucoviscidose, plus ils sont impliqués de manière longue dans cette maladie-là, plus leur connaissance de la réalité sociale des malades est importante et plus, j'allais dire, ils luttent contre leur représentation médicale centrée sur la maladie, l'apprentissage fondamental, l'importance des incapacités, des symptômes, de tout ce qui construit la représentation centrée sur la médecine, pour, j'allais dire, le négocier à l'aune de leur clinique et de leur expérience d'une multitude de cas concrets. Or là, on voit des situations très différentes avec parfois des infirmières ou des kinés qui tournent très très vite et puis d'autres qui se stabilisent sur cette spécialité-là et qui avec le temps, j'allais dire, acquièrent une certaine expérience et un certain sens du coup du social très très aiguisé.
Et alors est-ce que les obstacles qui ont été rapportés par les professionnels de santé, c'est les mêmes qui sont rapportés par les patients? Vous parlez d'hiatus dans votre livre à ce niveau-là.
Pour une partie, un certain nombre d'obstacles sont identifiés et repérés. Et pour une partie, non. On pourrait dire que globalement, si on voulait faire un résultat simple, le travail de masquage de la maladie, l'énergie que déploient les patients pour être dans la norme et pour cacher leurs symptômes dans les univers sociaux sont largement sous-évalués par les professionnels de santé qui, pour les plus éclairés d'entre eux, les plus anciens, les plus proches, pour des raisons cliniques des patients, les perçoivent bien, mais j'allais dire n'en mesure pas en fait l'importance, l'étendue et surtout les effets handicapants qu'ils peuvent avoir et les stratégies plus ou moins complexes, compliquées et les situations du coup assez compliquées dans lesquelles peuvent se mettre les individus pour à la fois participer socialement et à la fois d'une certaine manière effacer la maladie, la rendre invisible et ne pas d'une certaine manière voir leurs interactions avec les autres perturbées en raison de la surprésence de cette maladie dans ces interactions.
Alors ces efforts justement pour sembler normaux, normal peut-être, vous les avez étudiés à l'école notamment. Peut-être pour commencer, est-ce que les enfants atteints de mucoviscidose rencontrent des difficultés scolaires plus importantes que d'autres?
Cela dépend, parce que les expressions de la mucoviscidose sont très variables individuellement et elles sont également très variables dans le temps. Donc, il peut y avoir des enfants qui sont plus atteints, enfin, qui ont beaucoup plus de symptômes pendant la petite enfance, donc avec beaucoup d'infections, de cures antibiotiques, ce qui évidemment pose des problèmes pour la scolarité, et suivi après par des périodes beaucoup plus tranquilles, disons beaucoup plus paisibles, et une éventuelle aggravation qui survient à l'adolescence. Donc, ça dépend vraiment des individus.
Peut-être pour préciser sur ce point-là, un point qui me semble important et que ce qui affecte, c'est la souplesse, le retard, l'absence, les hospitalisations, les soins. Et que donc, effectivement, suivant les expressions symptomatiques, ça va être des ruptures de scolarité, des absences, la gestion du rattrapage scolaire. Et donc, que les effets sont un peu des effets cumulés à long terme et un peu variables, en fait, suivant les expressions de la maladie. C'est pas tout à fait pareil d'avoir des soins très importants et de la kiné et d'être en retard et d'avoir un peu de rattrapage à faire, d'avoir des absences fréquentes sur des petites infections ou d'avoir, pendant la période du bac, par exemple, une période d'hospitalisation très, très importante. Donc, on va avoir des cas variables qui sont liés à la gestion de la maladie, avec toujours en arrière-plan cette question de en quoi l'institution peut-elle s'adapter à ses trajectoires sur le long terme et en quoi ces absences plus ou moins répétées et cumuleuses peuvent avoir un impact sur les destins scolaires, sur les orientations scolaires, sur les carrières scolaires. Vous voyez que la question est difficile parce qu'elle ne se pose pas sur les résultats à court terme, mais elle se pose sur les effets cumulés en fait, sur le long terme et sur les choix qui engagent à la fois les choix faits, les choix d'orientation. Vous voyez aussi que les choix d'orientation, c'est difficile de connaître l'impact parce que ils peuvent y être liés à la maladie. On peut s'interdire certaines filières considérant qu'elles vont nous amener vers des choses trop coûteuses en termes de temps, trop stressantes, etc. Ou au contraire, on peut y aller en prenant des risques. Les résultats immédiats ou la gestion immédiate est jamais spectaculaire, mais les effets à long terme sont tout à fait déterminants. On retrouve là plutôt des choses qui sont effectivement des choses qu'on voit dans les parcours de personnes handicapées au sens général.
Alors, dans le milieu scolaire, il existe des dispositifs particuliers, notamment les PAI, les projets d'accueil individualisés, qui sont proposés justement pour accompagner ces situations particulières. Pourtant, vous dites dans votre livre qu'il y a de nombreux jeunes qui préfèrent ne pas y avoir recours pour faire plutôt ce que vous appelez des arrangements pratiques. Est-ce que, Laura Silvestri, vous pouvez nous expliquer pourquoi ils font ce choix-là ?
Oui, alors, tous ne refusent pas ces dispositifs, notamment ceux qui ont les atteintes les plus importantes ont tendance à l'exagérer un peu plus volontiers. Mais disons que pour ceux qui le refusent, la raison principale est que ces dispositifs les singularisent par rapport aux autres, alors que leur désir est d'être dans ce qu'ils reconnaissent comme une normalité. Et surtout, ça leur donne l'impression de ne pas avoir reconnu leur mérite scolaire. C'est ça qui est l'une des raisons les plus importantes, je dirais.
Et est-ce que vous faites le même constat dans le milieu professionnel où il y a aussi des dispositifs de ce type qui existent ?
Oui. Et oui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les travailleurs souhaitent autant qu'ils peuvent être reconnus pour leur travail et ils craignent que le fait d'avoir recours à ces dispositifs puisse mettre en doute leur capacité à travailler.
Vas-y. Donc, dans le chapitre suivant, le chapitre 3, il ouvre la seconde partie de cet ouvrage consacrée aux écarts de variation dans le vécu des situations de handicap. Et pour ça, vous avez demandé à 100 jeunes atteints de la mucoviscidose de répondre à deux versions d'un même questionnaire, le MQE, pour mesure de la qualité des environnements. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sylvain Ferrez, en quoi il consiste ?
Oui, c'est un problème qui est très lié au concept de participation sociale et au modèle du MDPPH dont on a parlé tout à l'heure, MDH-PPH2. Il consiste à poser des questions aux gens sur la manière dont ils perçoivent leur environnement, c'est bien une perception, en ayant une échelle de Likert, donc une échelle de mesure entre facilitateur et obstacle, moins 3 et plus 3 avec un 0 neutralité, et en les interrogeant sur est-ce que cet environnement-là, ils le considèrent comme, ou cet élément-là de l'environnement, comme plus ou moins facilitateur et obstacle. Et on peut avoir ainsi, non pas une vision projetée sur ce qui est ce que seraient les obstacles réels des individus, mais une vision subjective sur ce qu'ils perçoivent comme les environnements les plus facilitants ou au contraire les environnements qui constituent des obstacles difficiles à surmonter pour participer socialement. Et on peut balayer ainsi les environnements scolaires et professionnels en demandant s'ils considèrent les supérieurs, les collègues, l'aménagement des bureaux, voilà tout un tas d'éléments de l'environnement professionnel comme plus ou moins facilitants et obstacles. Voilà. Donc on a utilisé ce questionnaire-là qui a un avantage très fort, c'est qu'il vient des modèles du handicap et donc s'applique à toutes les personnes vivant des situations de handicap, quelles que soient leurs incapacités. C'est un questionnaire qui est utilisé, cette mesure de la qualité des environnements, en fait, pour des personnes qui ont des handicaps sensoriels, des handicaps physiques, des incapacités intellectuelles. C'est un outil générique, en fait, du monde du handicap.
Alors, à l'issue de ces questionnaires, justement, vous avez donc créé 3 groupes en fonction du nombre d'obstacles déclarés à cette participation sociale. Il y a des grandes caractéristiques sociodémographiques qui ressortent dans ce classement, notamment par exemple le genre, le niveau d'études, le fait que les parents soient séparés ou pas, la taille de la ville. On peut s'arrêter 2 secondes sur la question du genre. Donc, les femmes, finalement, ressentent plus d'obstacles. Alors, c'est dû à quoi ? Vous avez une interprétation ou pas ?
Nous avons juste une hypothèse, c'est-à-dire que les données ne nous permettent pas d'aller plus loin, mais nous avons fait l'hypothèse que les femmes soient plus disposées à reconnaître les obstacles qu'elles rencontrent, alors que peut-être pour les hommes, il est plus difficile de rencontrer des obstacles, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus dans un sentiment de normalité. Voilà. Que les femmes.
Oui, en tout cas, ils montrent des résistances à déclarer une vulnérabilité que suppose cette vision du handicap, et ils sont peut-être plus prototypiques d'une certaine manière du profil des mucos qui ne veulent pas dire qu'ils sont en difficulté, veulent maintenir une forme de normalité. Un autre aspect là qui est important où on a le plus d'interprétations, vous avez parlé de la taille de la ville, là on a beaucoup de données qualitatives. Bizarrement, les environnements urbains sont compliqués pour les mucos parce que question de déplacement, question de temps, question de pollution et de transport. Et donc, bizarrement, les stratégies à long terme dans les trajectoires conduisent les individus dans leurs arrangements pratiques à choisir plutôt des lieux qui permettent une souplesse, des petites entreprises familiales dans lesquelles on va pouvoir avoir les arrangements pratiques dont on a parlé tout à l'heure, et plutôt dans des espaces qui facilitent les aspects de transport, qui sont peu pollués et posent peu de problèmes respiratoires, et donc vont aller plutôt vers les petites villes, voire les villages, que dans les grandes villes. Et là, il y a tout un tas de tensions, évidemment, au moment des études autour de la question de la décohabitation avec les parents et le fait d'être dans une grande ville et de devoir gérer le temps et la vie en ville au regard des capacités ou des difficultés que peuvent générer la maladie.
Alors, vous décrivez les 4 patients dans votre livre et vous parlez notamment d'Armand et de Thomas qui vivent des situations de santé très différentes. Thomas qui a des symptômes parfois importants et qui ne peut pas toujours masquer les effets de la maladie, et Armand qui a une maladie très peu symptomatique. Et malgré ces différences, est-ce qu'il raconte une perception aussi différente des obstacles qu'il rencontre, Laura Silvestri ?
Oui, nous avons choisi ces 2 exemples justement pour montrer comment le vécu de situation de handicap n'est pas directement lié à la situation médicale. Et là, on voit bien que malgré la différence des situations de santé, les 2 personnes déclarent le même nombre d'obstacles dans l'environnement scolaire. Et nous avons fait l'hypothèse que la raison pour laquelle Armand déclare le même nombre d'obstacles que Thomas, malgré sa meilleure santé, et que Armand, ayant vécu aussi à l'étranger, ayant des expériences de cadres thérapeutiques différents dans les différents pays, s'autorise un regard plus critique envers l'environnement qu'il rencontre. Donc là, on voit bien combien sa vision des obstacles, du vécu des situations du handicap n'est pas liée qu'à sa situation médicale, et comment il ne voit pas le handicap comme quelque chose qui est en lui, que en lui. C'est ça que nous tenions à souligner en choisissant ces 2 exemples.
Alors, dans ce chapitre, on retrouve donc ce désir de normalité. Et vous expliquez que derrière l'expression de la normalité, Sylvain Ferrez, il y a une sorte d'inversion ou de paradoxe. Le vrai malade, donc celui qu'on peut trouver sur Internet. Vous avez parlé tout à l'heure de... J'ai un trou de mémoire.
Grégory Lemarchal.
Merci beaucoup. De Grégory Lemarchal, finalement, cette image-là du malade, elle devient une sorte de figure imaginaire.
Oui, le récit de Grégory Lemarchal, cet individu entrepreneur de lui-même, de sa voix, devenu un héros et mort tragiquement, donne un récit imaginaire de à la fois de la résilience et du caractère tragique de la mucoviscidose. Il faut avoir l'idée que les changements rapides de représentation de cette maladie sont liées à son changement rapide de statut et de traitement lié aux innovations, et que donc cette maladie a été annoncée aux parents des jeunes qu'on a interrogés il y a 15 ou 20 d'années, un peu plus pour certains, comme une maladie mortelle. Et que donc ces enfants se sont construits avec le spectre de « à un moment donné, je ne vieillirai pas », avec le drame que ça représente pour les parents, et avec la hantise dans les interactions que, dévoilant la maladie, les autres auraient le regard sur eux de quelqu'un qui était à l'article de la mort, qui allait dépérir et tout ça, et que ça altérait toutes leurs relations sociales. Du coup, cette figure, j'allais dire, elle n'est plus d'actualité médicalement, mais d'un point de vue imaginaire, elle reste d'actualité par la méconnaissance de la mucoviscidose et le regard que renvoient les gens qui ne connaissent pas la maladie, auquel on va préférer dire qu'on a de l'asthme plutôt que de la mucoviscidose, parce qu'on sait que cette maladie est ancrée dans les représentations comme bénigne, pas grave, et qu'elle ne va pas altérer ses relations sociales, mais est aussi liée sans doute à une incertitude plus profonde des individus qui ont vu, leurs parents avoir des inquiétudes extrêmement importantes sur la question de leur propre vie et qui ont probablement été marquées par cette trace.
Alors le chapitre 5, brièvement, il évoque les expériences du handicap au travail avec deux témoignages, celui de Jean qui a eu beaucoup d'infections et celui de Rosalie qui elle est asymptomatique et qui pourtant déclare rencontrer plus d'obstacles que Jean dans sa vie professionnelle. Laura Silvestri, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, qu'est-ce qui explique cette différence de perception chez Rosalie ?
Nous voyons que Rosalie étant complètement asymptomatique, s'est vécue toute sa vie comme une personne absolument saine. Et là, on voit bien les obstacles que l'environnement lui a posés en continuant à la regarder comme quelqu'un de malade. Bon, pour être très synthétique.
Alors justement, on va conclure brièvement. Donc, en conclusion, comment cette étude, elle peut, selon vous, améliorer la participation sociale des malades, en fait, à qui vous la destinez, qui peut s'en saisir ?
Je pense que comme tout sociologue, on s'adresse à tous les gens qu'on a interrogés qui peuvent se saisir de ces outils-là pour mieux comprendre, réfléchir sur leurs pratiques. Évidemment, en premier lieu, sans doute aux institutions concernées, le monde du travail et le monde de l'école, qui ont des missions en termes d'inclusion et qui souvent sont dépourvues par la méconnaissance en fait, des patients auxquels ils ont à faire face et des problèmes qu'ils rencontrent. Et on pense qu'évidemment, ça peut outiller ces institutions pour mieux penser l'inclusion et les spécificités de l'inclusion de ces personnes qui vivent avec la mucoviscidose, mais évidemment aussi les soignants qui accompagnent d'une certaine manière les personnes dans ce travail d'inclusion sociale puisqu'ils sont très très présents, notamment au travers de l'éducation thérapeutique du patient, au travers des interfaces qu'ils ont eux-mêmes avec les institutions pour faciliter l'inclusion, et puis évidemment les malades eux-mêmes qui sans doute en lisant cet ouvrage reconnaîtront et se reconnaîtront pour partie mais pas totalement et verront un panel de stratégies, de manières d'opérer qui leur donnera peut-être des idées, de la souplesse dans leur propres usages, peut-être pour mieux comprendre les processus sociaux dans lesquels ils sont pris et être des acteurs plus éclairés, plus conscients de ce qui se joue socialement dans leur propre trajectoire.
Sylvain Ferrez, Laura Silvestri, allez-y Laura, oui.
Juste une petite précision, parce que je vous ai peut-être induite en erreur, Sylvain est sociologue,
c'est moi qui suis sociologue. On refera la modification, il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de cette étude très très intéressante et à bientôt alors. Et on passe maintenant à notre invité de dernière minute et j'accueille Agnès Pesanti. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Alors, vous venez nous présenter le prochain Bar des Sciences qui aura lieu, comme d'habitude, à la brasserie Le Dôme à 20h30 le 29 février prochain sur le thème « Palava sous les flots, science-fiction ou réalité ?». Alors, de quoi va-t-on parler exactement, Agnès ?
Eh bien, nous allons parler de la montée du niveau de la mer et des océans. Non, en fait, il est désormais avéré que le niveau de la mer monte. Tout le monde le sait, on le constate, hein, on le voit tous autour de nous. On habite le littoral. Et il a déjà gagné entre 15 et 25 cm depuis 1900. Et la hausse s'accélère, hein. C'est ça le problème en fait, c'est que la hausse s'accélère. Hein. Et ce phénomène est évidemment l'une des conséquences directes du réchauffement climatique. Alors selon les projections du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, le bien connu GIEC, eh bien, la hausse du niveau de la mer pourrait atteindre plus d'un mètre en 2100. Dans le cas où l'humain continuerait évidemment à émettre la même quantité de gaz à effet de serre. Alors en France, une cartographie qui a été établie, mais plusieurs communes de bord de mer sont menacées par l'érosion du littoral et la montée du niveau de l'eau. L'Occitanie est concernée, et notamment Palavas-les-Flots. La ville vit sous cette menace et va devoir obligatoirement s'adapter. Alors en fait, le CESER, hein, qui est le Conseil économique, social et environnemental régional d'Occitanie, a même estimé les dommages causés par l'hypothèse d'une montée des eaux d'un mètre. Donc ça représenterait 11 500 hectares agricoles qui seraient perdus, 34 000 logements et 4 600 entreprises qui seraient impactées, soit un coût d'1 milliard d'euros. Ce qui n'est quand même pas négligeable.
Pas négligeable du tout, oui. Non. On imagine que ça va fortement modifier les habitudes de vie de pas mal de gens.
Exactement.
Alors, Comme d'habitude, j'imagine que vous avez convoqué des experts. Donc, qui viendra à ce bar des sciences ?
Deux experts, effectivement, de ce sujet. Donc, Frédéric Bouchette, il est professeur des universités, il est chercheur au laboratoire Géosciences de Montpellier et il est spécialiste des littoraux. Et puis, Frédéric Grelot, lui, il est chercheur économiste à INRAE, à l'unité mixte de recherche GO, Université de Montpellier toujours, et il est spécialiste des risques et des impacts des inondations.
Alors, donc le Bar des Sciences est bien connu de nos auditeurs, mais on imagine qu'il y a peut-être toujours certaines personnes qui ne sont jamais venues au Bar des Sciences. Est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots le principe ? On n'est pas dans une conférence classique au Bar des Sciences.
Non, c'est même l'antithèse d'une conférence classique. On est dans un débat participatif et citoyen. Voilà, l'idée, c'est de mettre un sujet à la discussion, d'inviter des experts, des scientifiques la plupart du temps, mais ça peut être des experts sans qu'ils soient scientifiques, pour débattre de ce thème. Et toute la soirée sera nourrie par les questions du public en présence. C'est accessible absolument librement, gratuitement, et on invite le plus grand nombre à venir nous rejoindre à la Brasserie du Dôme à 20h30.
Le 29 février prochain, donc. Merci beaucoup Agnès.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Au mois prochain, comme
d'habitude. Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.